dans cet âge qui passe pour avoir été rebelle aux sentiments de la nature, la conversation tombait sans cesse sur le paysage. On s'arrêtait pour admirer les vues, on allait les chercher et l'on tâchait de s'expliquer pourquoi on les trouvait belles. Les raisons que l'on s'en donnait étaient de gens qui, tout en sachant goûter un grand bois et le beau tapis de pied de sa mousse, préféraient au paysage naturel ceux où se faisait sentir l'intervention et le travail de l'homme. Un désert leur plaisait moins qu'un paysage habité, un site sauvage moins qu'un riant assemblage de champs cultivés et de vergers plantés avec symétrie, rappelant l'agréable variété des parterres qui sont faits par l'artifice des hommes. Mademoiselle vante dans ses mémoires la vue que l'on avait du bout de sa terrasse. Elle cessait à la décrire et sentir très mal. Segret s'y est aussi essayé et ne s'en est tiré qu'un peu moins mal. On ne savait pas de leur temps, on n'avait même pas les mots nécessaires pour noter un paysage. Puisque aussi bien la gloire de Bernardin de Saint-Pierre a été de créer notre vocabulaire descriptif. En récompense, Segret a très bien su nous expliquer que la beauté de cette vue qu'il venait de décrire si gauchement tenait pour lui et pour son entourage à ce qu'elle avait été trop bien arrangée par le hasard, à ce qu'elle était trop conforme aux règles à paysage classique en peinture pour avoir l'air d'être l'œuvre de la seule nature. Ni la vallée du Loing, ni le grand étang qui fermait ce côté du château, ni l'île de l'étang avec ses bouquets d'arbres, ni l'église et la petite hauteur que l'on apercevait dans le fond, ne semblaient se trouver fortuitement là où ils étaient. « Et c'est, écrit Segret, ce qui représente si fort ces excellents paysages de grands peintres, que tous ceux qui le regardent croient avoir vu cet étang, cette église et cette petite île dans 1000 tableaux. » La littérature, celle d'imagination tout au moins, tenait aussi une place considérable dans les conversations. Mademoiselle, qui n'avait jamais rien lu avant d'être à Saint-Fargeau, s'était mise à rattraper le temps perdu.
« Je suis une créature très ignorante, »
écrivait-elle au début de son exil,
« qui n'a jamais lu que les gazettes, n'aimant point à lire, mais dorénavant je m'y veux appliquer et voir si je pourrais aimer une chose de propos délibéré sans que l'inclination y ait part. » Je suis en un lieu où ce me sera un grand divertissement si je réussis dans ce dessin. »
Le succès passa ses espérances. Elle se prit de passion pour la lecture. Dans ce crémier hiver de 1832-1633, où le château était livré aux ouvriers et les distractions rares, quand le mauvais temps et les chemins défoncés rendaient Saint-Fargeau inabordable et le grenier solitaire, elle se faisait lire et écouter sans se lasser en tirant l'aiguille.
Je travaillais depuis le matin jusqu'au soir à mon ouvrage et je ne sortais de ma chambre que pour aller dîner en bas et à la messe, cet hiver-là étant assez vilain pour ne pouvoir s'aller promener. Dès qu'il faisait un moment de ce beau temps, j'allais à cheval et, quand il gelait trop, me promenais à pied voir mes ouvriers, pendant que je travaillais à mon ouvrage, je faisais lire. Et ce fut en ce temps que je commençais à aimer la lecture, que j'ai toujours fort aimé depuis.
Au bout de quelques années d'exil, son érudition frappa le docte Huet, qu'il avait rencontré aux eaux de Forges.
Elle aimait passionnément les histoires, dit-il,
en ses mémoires,
et surtout les romans, comme on les appelle. Pendant que ses femmes la coiffaient, elle voulait que je lui fisse la lecture. Et, quel qu'en fût le sujet, il provoquait de sa part mille questions, en quoi je reconnus bien la finesse de son esprit.
Les romans à la mode étaient pour plaire à une princesse qui avait de la grandeur et aimait à en rencontrer chez les autres. C'étaient les œuvres de Gomberville, de La Calprenède et de Mademoiselle de Scudéry, où les bergeries et les roucoulements de l'Astrée avaient cédé la place aux aventures héroïques et aux grands sentiments de princes. Batailleurs et superbes, les mêmes, en dépit de leur nom exotique, qui regimbèrent sous Richelieu et firent la fronde sous Mazarin. Les générations nées dans le premier tiers du siècle furent charmées des héros à leur ressemblance que leur offraient ces récits romanesques. Elles se passionnèrent pour le site Hourondat, ou pour le grand Gyrus, comme leurs descendants pour Saint-Preux ou pour Lélia, et plus d'un lecteur resta fidèle jusqu'à la mort aux écrivains qui avaient su exprimer l'idéal de sa jeunesse. À 60 ans, La Rochefoucauld relisait encore La Calprenède. Madame de Sévigné était grand-mère. Qu'elle se laissait reprendre à Cléopâtre
comme à Delaclue. La beauté des sentiments, la violence des passions, la grandeur des événements et le succès miraculeux de leur redoutable épée, tout cela m'entraîne comme une petite fille. Les sentiments sont une perfection qui remplit mon idée sur les belles âmes.
Le réalisme et le naturalisme nous ont déshabitués de ces enthousiasmes pour les héros de romans. L'imagination ne peut pas s'enflammer pour un Coupeau ou une Nana, ni même pour une Emma Bovary, quels que soient les mérites littéraires de l'œuvre. La petite cour de Saint-Fargeau en était à ne pouvoir parler de sang-froid de ses héros favoris. Un jour que mademoiselle, suivie d'une troupe nombreuse, se promenait en carrosse dans la fraîche vallée du Loing, elle mit pied à terre sous les grands saules qui bordaient la petite rivière. On était au printemps et le soleil était radieux. L'herbe nouvelle et les feuilles naissantes composaient un tableau si riant que l'on ne put parler autre chose pendant longtemps. Enfin, tout en marchant, la conversation tourna sur les romans et chacun prit parti pour son personnage de prédilection. La discussion s'échauffait quand la princesse, qui n'avait presque rien dit jusque-là, intervint pour en modérer l'ardeur. Après avoir avoué qu'elle avait encore bien peu lu, elle fit l'éloge du roman historique, ou plutôt de ce qu'il pourrait devenir, mieux compris, sous une plume savante, et critiqua l'usage de
« donner des mœurs tout à fait françaises à des Grecs, des Persans ou des Indiens ».
Mademoiselle aurait voulu plus de
« vérité historique »
et de ce que nous appelons la couleur locale. Pourquoi ne pas prendre franchement des sujets et des personnages français et contemporains ?
Je m'étonne,
dit-elle en terminant,
que tant de gens d'esprit qui nous ont imaginé de si honnêtes sites et des partes si généreux n'ont pris le même plaisir d'imaginer des chevaliers ou des princes français aussi accomplis dont les aventures n'eussent pas été moins plaisantes.
Après un moment de silence, les objections se succédèrent. L'idée d'écrire un roman sur
la guerre de Paris
semblait bien osée. Une jeune femme représenta naïvement que l'auteur ne saurait comment appeler ses personnages. Les Français, disait-elle, aiment
naturellement
les beaux noms. Artabaz, Ifidamante, Orosmam sont de beaux noms. Rouen, Lorraine, Montmorency n'en sont pas. La vieille Madame de Choisy, avec l'autorité que lui donnait son esprit, fit valoir qu'il fallait au récit d'imagination pour devenir vraisemblable le recul du temps et de l'espace. Une marquise parut lasse des rois et des empereurs de romans et réclama des héros, pris dans les classes moyennes. Une autre marquise, Madame de Mauny, qui passait pour avoir inventé le mot « s'encanailler », rappela qu'il est défendu aux héros de romans de rien faire ni rien dire qui
déroge aux beaux sentiments,
apanage de la grande naissance. Mademoiselle maintint la nécessité de l'observation et de la vérité pour
la nouvelle.
Mais elle admit que l'auteur d'un grand roman faisant œuvre de
poète
avait le droit de se
figurer les choses
au lieu de les copier servilement. La nouvelle, disait-elle,
raconte les choses comme elles sont.
Le roman,
comme elles doivent être.
La distinction ne manque ni de finesse, ni d'une certaine justesse. Et l'on aimerait à savoir dans quelle mesure ce gré y avait collaboré. Personne n'ayant répliqué, la princesse remonta dans son carrosse et ordonna de suivre sa meute qui venait de lever un lièvre à quelques pas de là. Elle fut obéie malgré les obstacles que présentait le terrain et rentra au château, très satisfaite de son après-midi.